Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Reportage qui a été réalisé par téléphone le vendredi 29 mai. Bonjour, c'est Frédéric. Je suis en studio RVM et je retrouve Laurent Rubinstein. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors Laurent, on s'était parlé le 30 mars par téléphone déjà. Donc tu es infirmier à l'hôpital Robert Debré sur Paris. Et on avait fait un interview en pleine période de Covid-19. Donc 2 mois se sont passés. Laurent, peux-tu nous refaire un petit retour de ton expérience de ce Covid-19 puisque tu étais à cette époque-là en train de faire une formation pour intégrer le service Réa, c'est ça hein ?
Oui. En fait, on a ouvert à Robert Debré, on a basculé la réa pédiatrique sur un autre service. On a accueilli des adultes, environ 17 adultes, qui venaient dans des états critiques avec le Covid-19. Ça a été une sacrée expérience parce que c'est vrai que j'ai vu ce virus autrement, j'ai vu des patients qui n'allaient pas forcément bien, j'ai vu des patients intubés ventilés, j'ai manipulé des drogues. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, une formation qui a duré à peu près 3 nuits. Ce service a duré environ 1 mois et après on a retransféré les adultes sur d'autres hôpitaux. Quand il y avait des lits libres et après on a repris l'activité essentiellement pédiatrique. Sinon mon retour d'expérience, c'était vraiment des moments difficiles avec un port du masque FFP2, le fameux masque canard qu'on met à l'hôpital où on l'avait 12 heures sur le nez et que on avait juste notre pause repas pour l'enlever et sinon on gardait toutes ces heures. Et oui, c'est assez intensif. Chaque minute comptait et il fallait. Il y avait une haute surveillance de nos patients qui étaient en réa justement et qui avaient besoin de soins et tant des soins techniques que du soin relationnel.
Et toi, comment te sens-tu ? Comment ça va pour toi alors ?
Oui, on est fatigué. On est on n'a pas encore le contre-coup, mais je pense qu'on va l'avoir bientôt. Le fait d'avoir vécu une période aussi intensive et aussi fatigante, parce que aussi au niveau du stress, au niveau de la pression qu'on se mettait. Avec le fait que on continue le combat, etc. Donc c'est vrai qu'on est encore dans une intensification et dans une volonté de rendre à l'hôpital ce qu'on doit avoir.
Alors, comment ça se passe à Robert Debré en ce moment ? Tout est revenu à la normale ou il y a encore un service Covid-19 que vous avez chez vous ?
Alors du coup, tout est revenu à la normale. Après, il y a toujours un service de Covid en pédiatrie et des lits qui sont dédiés au Covid. Il y en a moins, mais après, il y en a toujours. Mais c'est vrai qu'au niveau il y a vraiment une baisse significative du nombre de Covid. Et ça se passe... on commence à vraiment reprendre des attitudes normales et plus porter le masque FFP2 pendant 12 heures, etc. On commence vraiment à reprendre des rythmes normaux.
Donc ce qui a changé quand même, c'est qu'il n'y a plus le contact comme avant, c'est-à-dire qu'on ne se fait plus la bise, on ne se serre plus la main. Bon, il faut respecter certaines distances et tout. Même vous, entre vous, collègues, c'est assez compliqué ou comment, est-ce que vous retrouvez quelque chose de normal ou ça restera comme ça pendant un bon moment ?
Ah non, ça restera comme ça pendant un bon moment. La distanciation sociale, elle doit être respectée. Et nous, c'est vrai que... on avait l'habitude de se faire la bise, on avait l'habitude de se prendre dans les bras parce que des fois il y en a qui craquent, etc. Et c'est vrai que là, on respecte la distanciation et on fait les mesures barrières comme l'État le dit.
Est-ce que tu peux nous rappeler de quel mouvement tu fais partie, de quel collectif ?
Alors, je fais partie du collectif Interurgence qui est né en fait il y a un an et demi. avec toujours, parce qu'il y avait eu de la violence à Saint-Antoine, etc., qui est arrivé jusqu'à Robert Debré parce que par rapport au manque d'effectifs, par rapport au manque de moyens sur l'hôpital public. Du coup, à travers ça, on a fait pas mal de manifestations et pas mal de rencontres avec tant le directeur de la PHP, Martin Hirsch, et d'autres acteurs de la santé, d'autres acteurs du ministère à l'époque, Agnès Buzyn, où on a essayé de travailler sur des revalorisations de salaire, une amélioration du nombre de postes, un arrêt des fermetures de lits, nos principales revendications pour améliorer la qualité de soins à l'hôpital. On n'a pas été entendu sur ces points. Il y a eu une revalorisation de 100 euros sur les urgences. Sachant que moi, j'ai quitté les urgences pour aller sur l'équipe de la suppléance. C'est une équipe en fait qui remplace les congés maladie, les congés maternité sur l'ensemble de l'hôpital, sur l'ensemble des services de l'hôpital. Du coup, je change de service très régulièrement. Et du coup, je n'ai plus cette prime. Donc là, avec le Covid, il y a le plan Ségur qui s'est ouvert. Ce plan Ségur, en fait, il a annoncé une revalorisation des salaires et les autres points n'ont pas été abordés. Sur les acteurs de santé, il n'y a pas eu d'acteurs de santé paramédicale inclus dans ce plan Ségur. Donc ça veut dire que les soignants ne sont pas du tout représentés dans ce plan Ségur qui est assez technocrate avec plus des praticiens hospitaliers, des praticiens universitaires, des chefs de service, des directeurs des hôpitaux, etc. etc. Et sans prise en compte des soignants qui sont au cœur de l'hôpital et qui sont encore au cœur du soin. Donc là, c'est un combat qu'on essaye de mener aussi. Et ça se... Tous les jeudis, à Robert Debré, à 13h30, on fait un rassemblement avec ce qu'on appelle une casserolade, où vraiment on descend du parvis des urgences et on va jusqu'à l'entrée principale de l'hôpital avec des casseroles, on fait du bruit, la population vient avec nous. On a plein de partisans qui se joignent à nous, des différents bords politiques et de différents collectifs aussi. Donc jeudi dernier, on était environ 500 personnes. Ce jeudi-là, on était environ 200-300 personnes. C'est vraiment des mouvements. Jeudi colère, c'est vraiment quelque chose qui a été initié à la base à Robert Debré et qui après, en fait, a fait un buzz et s'est développé dans plusieurs régions de France.
Oui, on a bien compris que ce virus, vous avez été en première ligne, hein, vous êtes mis en danger. Et là, maintenant, on se rend compte qu'il y a un malaise depuis plusieurs années. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ce malaise dans les hôpitaux. Ce Covid, malheureusement, a pu faire sortir ce malaise encore plus important, quoi.
Bah, on avait... Le gel du point d'indice date de 2006, donc si vous voulez, au niveau la revalorisation de salaire, il y avait eu un calcul qui avait été fait par un syndicat, ça représenterait 460 euros d'augmentation de salaire. 460 euros, ça serait... c'est même pas possible. Donc voilà, après, c'est à l'État de prendre ses décisions et d'intégrer des soignants pour aussi... parce que en fait... On ne demande même pas, c'est même pas en fait la revalorisation de salaire, ça permet une attractivité et ça permet aussi d'éviter les départs. Parce que il y a des soignants qui vont partir par rapport au salaire, il y a des soignants qui vont partir par rapport à de meilleures offres dans d'autres structures. Et pareil, les étudiants qui sortent du diplôme, ils vont se dire non, mais je ne vais pas aller, forcément. Dans un hôpital public qui va me rémunérer 1600 euros, voire moins, pour travailler dans des services lambda.
Mais toi, tu espères combien ? On parle de 300 euros, c'est ça, qui vous ferait déjà...
Oui, une revalorisation de salaire de 300 euros et après aussi une évolution de nos carrières. En fait.
Oui, oui. Pour info, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé le lancement le 25 mai d'un Ségur de la Santé avec une grande réunion multilatérale des partenaires sociaux au ministère en vue d'un plan cet été. Apparemment, ce plan a oublié certains corps de métier de la santé. Vous écoutez Laurent Rubinstein, infirmier à l'hôpital Robert Debré à Paris. Oui, donc ça veut dire qu'on privilégie plus le privé que le public, c'est un peu ça le problème, quoi.
Après, ça dépend du privé, mais il y a certains établissements privés qui, oui, offrent un meilleur salaire que dans le public.
Oui, oui, et puis là, ils ont compris qu'il y avait potentiellement des personnes qu'ils peuvent récupérer, comme tu disais, là, donc voilà. Donc, l'hôpital public est en danger, alors, depuis plusieurs années, déjà. Hein.
L'hôpital public est en danger, et justement, l'État... quand même tend à privatiser cet hôpital public dont on a besoin. Parce que par exemple dans le 19e, j'ai vraiment toutes catégories socio-professionnelles et des catégories vraiment très pauvres. Et on rentre dans une paupérisation de la société. Comment peut être l'accès du soin si l'hôpital public disparaît?
Oui, c'est vrai que ça fait une santé à deux vitesses et malheureusement, ceux qui auront les moyens pourront se soigner comme il faut. Et comme tu disais, là, ceux qui n'ont pas de moyens, ça va être plus compliqué. Quoi, voilà. Laurent, comment tu vois donc la rentrée? Parce que là, on a bien compris qu'on va être dans une période où peut-être les gens vont peut-être un peu plus décompresser avec les vacances et tout ça. Le mois de septembre risque d'être chaud alors.
Alors nous, déjà, on a prévu une manifestation le 16 juin. Avec un appel du collectif Interurgence et du collectif Interhôpitaux. On va essayer vraiment d'avoir un rassemblement intelligent et qu'on puisse aussi faire remonter à l'État ce que l'on souhaite. Et on continue toujours tous les jeudis à faire le jeudi colère et pour permettre aussi d'avoir un maximum de personnes avec nous. On sait que la population est avec nous, mais le 16 juin, il faut vraiment que la population soit avec nous. Et c'est très important parce que ça permet aussi une solidarité. L'objectif des soignants, c'est d'améliorer la qualité de soins, c'est d'améliorer l'accessibilité, de pouvoir renforcer aussi le côté... soins relationnels, donc c'est-à-dire pouvoir discuter avec nos patients, pouvoir échanger, pouvoir partager ce qu'on n'a plus le temps maintenant.
Et vous avez une réponse de l'État pour l'instant ou c'est calme, il n'y a pas de retour?
Alors pour le moment, c'est un huis clos et on a très peu d'informations. On sait juste qu'il y a des groupes de travail qui sont organisés, mais du coup qui n'intègrent pas.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà. Ok. Bon, écoute, Laurent, merci pour toutes ces infos. On va suivre votre actualité. Hein. Je reviendrai vers toi un peu plus tard. As-tu un message à passer aux auditeurs pour qu'ils suivent votre actualité?
Alors après, il y a le collectif Interhôpitaux de Robert Debré avec une page Facebook, Twitter. Sur Instagram, il y a aussi le collectif Interurgence qui est présent sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux. C'est vraiment intéressant, je pense, de suivre un peu l'actualité pour que la population, même crépinoise et autour de Crépy, puisse se joindre à nous. Et après, voilà, je serais ravi de pouvoir discuter, en tout cas, avec des collègues de Crépy pour avoir un peu leur ressenti et qu'ils puissent même se joindre à nous le 16 juin parce que l'hôpital de Crépy, les maisons de retraite ont bien souffert avec ce Covid et je pense qu'ils doivent porter leurs revendications et venir aussi sur le pavé avec nous et qu'on puisse combattre ensemble et pas séparément.
Merci Laurent pour toutes ces infos et puis ben, écoute, on te souhaite le meilleur et puis surtout de te ressourcer, de te reposer un petit peu aussi.
Oui, merci beaucoup.
Ce reportage a été réalisé par téléphone le vendredi 29 mai. Voilà, Laurent Rubinstein, donc, qui est interne infirmier à l'hôpital Robert Debré à Paris. À bientôt, Laurent.
À bientôt.
Bonne écoute sur RFM 93.7.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RFM.